VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 16 août 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson, nous commençons par les titres.
Au Nigeria, trois femmes kamikazes ont fait 28 morts et plus de 80 blessés près de Maïdougouri, berceau de Boko Haram.
Appel du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU pour une aide matérielle et financière en vue de la création d'une force militaire conjointe.
En République démocratique du Congo, au moins deux personnes sont mortes du choléra dans le sud Kivu, où des dizaines d'autres cas ont été recensés.
Violence raciale de Charlottesville en Virginie, le président Donald Trump renvoie de nouveau dos à dos l'extrême droite et les contre-manifestants.
Et puis les États-Unis ont publié hier leur rapport annuel sur la liberté religieuse dans le monde.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant. Le journal.
Au Nigeria, 28 personnes ont été tuées et plus de 80 autres blessées hier lorsque trois femmes kamikazes se sont fait exploser dans une ville à 25 kilomètres de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est. C'est ce qu'a rapporté un membre des milices civiles qui lutte contre le groupe Boko Haram. Le triple attentat a eu lieu à l'entrée d'un camp de déplacés de Mandarari. Cette ville se trouve dans le district de Konduga, l'un des épicentres des violences commises par Boko Haram depuis que l'armée a chassé ce groupe de la forêt de Sambisa en décembre dernier.
Le Mali a demandé hier au Conseil de sécurité de l'ONU une aide matérielle et financière pour contribuer à la création d'une force militaire conjointe. Les précisions de Yacouba Ouédraogo.
L'ambassadeur malien à l'ONU, Issa Konfourou, a d'abord rappelé les récentes attaques contre des camps de l'ONU dans le nord du Mali et l'attentat au Burkina. Il a ensuite souligné que ces actes rappellent l'urgence de créer une force conjointe entre pays du Sahel avec l'appui de la communauté internationale. Issa Konfourou a appelé les pays amis et organisations internationales à financer cette force conjointe. Le budget annuel de cette unité de 5 000 hommes est estimé à 423 millions d'euros et seulement 108 millions ont été mobilisés. En visite hier à Ouagadougou, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, président en exercice du G5 Sahel, a affirmé que la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont unis face au terrorisme. L'objectif du G5 Sahel est de déployer les premières unités en octobre et rendre tous les bataillons opérationnels en mars 2018. Une priorité sera accordée aux opérations militaires transfrontalières.
En Sierra Leone, le président Ernest Bai Koroma a lancé hier un appel à l'aide internationale après les inondations et les glissements de terrain qui ont fait plus de 300 morts et un nombre inconnu de disparus à Freetown. Le porte-parole de la Croix-Rouge, Patrick Massaqua, a déclaré à l'AFP que le bilan officiel de 312 morts serait sans doute revu à la hausse. À New York, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que les représentants de l'ONU en Sierra Leone et les partenaires humanitaires mènent des missions d'évaluation.
En République démocratique du Congo, au moins deux personnes sont mortes du choléra dans le sud Kivu. Plusieurs dizaines d'autres cas ont été recensés. Le point avec Eddy Issango.
La zone de santé de Fizi sur les littorales de Tanganyika est la plus affectée par cette épidémie avec plus de 70 cas par semaine. Bukavu, le chef-lieu, en est à 35 cas par semaine selon l'autorité sanitaire de la province. Un centre de traitement gratuit du choléra est installé à l'hôpital public de Bukavu, indique le ministre Mwanza Nangunya. Mais l'hôpital est aussi touché par une pénurie d'eau depuis plusieurs semaines. Médecins sans frontières Espagne a promis lundi d'octroyer du matériel et des médicaments à certaines structures médicales de la province. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a annoncé la mise en place d'un comité provincial de crise pour la gestion harmonieuse de l'épidémie du choléra dans le sud Kivu. Selon l'ONU, le choléra est devenu un problème de santé publique majeur en RDC, avec des milliers de cas enregistrés chaque année dans de nombreuses provinces dépourvues d'infrastructures et où la majeure partie de la population vit dans la pauvreté. Plus de 700 décès du choléra ont été enregistrés depuis 2016.
Au Kenya, le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, a reporté à ce mercredi l'annonce de sa stratégie pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta, qu'il estime entachée de fraude. La coalition d'opposition, la NASA, a finalement publié hier un bref communiqué pour annoncer ce report, expliquant que les consultations prennent plus de temps qu'anticipé en raison de l'urgence, de la complexité et de la nature délicate des questions que la NASA doit traiter.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a défendu vigoureusement sa déclaration initiale condamnant les violences raciales de samedi dernier à Charlottesville, en Virginie, déclaration que beaucoup avaient qualifiée de faible. M. Trump a de nouveau renvoyé dos à dos les extrémistes de droite, ou l'alt-right, et les contre-manifestants de gauche, qu'il a appelés l'alt-left, en déclarant que la responsabilité de ces violences devait être recherchée des deux côtés. Il estime qu'il y avait aussi des gens très bien des deux côtés. Selon les détracteurs du président américain, il lui avait fallu deux jours avant d'utiliser les mots néo-nazi, Ku Klux Klan et suprémaciste blanc pour condamner les violences qui ont coûté la vie à une jeune femme et à deux policiers et fait des dizaines de blessés.
Dans une conférence de presse à Trump Tower à New York, Donald Trump a soutenu qu'il n'avait pas tous les faits quand il a fait sa déclaration initiale samedi, contrairement à celle qu'il a lue lundi et qui était plus détaillée. La controverse actuelle a provoqué la démission de plusieurs PDG et du président du principal syndicat américain, les FL-CIO, d'un groupe de conseillers économiques du président. Selon M. Trump, ils sont partis parce qu'ils sont embarrassés par ces pressions pour qu'ils ramènent aux États-Unis les emplois qu'ils créent à l'étranger.
En Corée du Nord, le leader Kim Jong-un a annoncé hier une pause dans le projet de son pays de tirer des missiles près du territoire américain de Guam. Les principales puissances impliquées dans ce dossier semblent vouloir jouer l'apaisement, y compris les États-Unis. Précision de John Linden.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, traditionnellement très mesuré dans ses propos, a réaffirmé dans la foulée qu'il ne fermait pas la porte à un éventuel dialogue. « Nous sommes toujours intéressés par la recherche d'une voie vers le dialogue, mais cela dépend de lui », a-t-il affirmé au sujet de Kim Jong-un. L'annonce du dirigeant nord-coréen constitue en elle-même une possible porte de sortie de la crise alimentée par la guerre des mots entre le président américain Donald Trump et la Corée du Nord. Autre signal d'une volonté de désescalade, la Chine, principal allié de la Corée du Nord, a également estimé hier qu'il était temps de revenir à la table des négociations. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe Sergueï Lavrov pour évoquer comment sortir de la spirale de confrontation sur la péninsule coréenne. Pékin et Moscou ont appelé toutes les parties impliquées, avec le soutien de la communauté internationale, à se diriger vers la mise en place d'un dialogue, d'après le ministère.
En Iran, le président Hassan Rouhani a souligné que son pays préfère respecter l'accord international de 2015 sur son programme nucléaire. Mais, a-t-il averti, Téhéran pourrait rapidement revitaliser ses activités nucléaires et ce, à un niveau encore plus élevé qu'avant la conclusion de l'accord. S'adressant hier aux membres de son parlement, M. Rouhani a accusé les États-Unis de ne pas être de bons partenaires. Téhéran s'insurge contre les nouvelles sanctions promulguées par le président Donald Trump contre les personnes impliquées dans le programme de missiles balistiques de l'Iran et ses gardiens de la Révolution en réaction à des tirs de missiles. Les deux côtés s'accusent mutuellement de violation de l'esprit de l'accord sur le nucléaire iranien.
Les États-Unis ont publié hier leur rapport annuel sur la liberté religieuse, un panorama des entraves à la liberté de culte et de croyance dans près de 200 pays du monde. Celui de 2016 dresse un tableau sombre. Le point avec Morgan Guiriec.
En présentant le rapport à Washington, le secrétaire d'État américain a d'abord mis l'accent sur le groupe État islamique en Irak et en Syrie, qui cible des groupes religieux ou ethniques par le viol, les enlèvements, l'esclavage et la mort. Pour le chef de la diplomatie américaine, Daesh est responsable de génocide à l'encontre des yézidis, des chrétiens et des musulmans chiites. Le rapport du département d'État recense les discriminations contre les musulmans en Hongrie ou d'actes antisémites et contre les musulmans en Allemagne, où une interdiction partielle du voile intégral est en débat. Le document relève aussi les controverses en France sur une possible interdiction du burkini sur les plages. L'Iran est épinglé pour avoir condamné à mort des personnes pour apostasie. La Chine est pour sa part accusée d'incarcérer des milliers de personnes à cause de leurs croyances religieuses. L'Arabie Saoudite, alliée des États-Unis, n'est pas en reste. Elle ne reconnaît pas le droit des non-musulmans à pratiquer leur religion. Au Pakistan, une vingtaine de personnes sont dans les couloirs de la mort ou emprisonnées à vie pour blasphème.
Le Canada, les États-Unis et le Mexique entament mercredi des discussions pour renégocier le traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA, à la demande de Donald Trump, qui en a fait une priorité de sa politique. Les négociateurs des trois pays seront réunis jusqu'à dimanche dans la capitale américaine pour moderniser cet accord commercial en vigueur depuis 1994 et qui a fait bondir leurs échanges commerciaux. Le président n'a eu de cesse de dénoncer l'ALENA, qu'il qualifie de désastre, lui attribuant la responsabilité de nombreuses disparitions d'emplois aux États-Unis. Les discussions de cette semaine constituent le premier round d'une série organisée à tour de rôle dans les trois pays. Le deuxième round aura lieu au Mexique le 5 septembre, avant le troisième au Canada, à une date non communiquée. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho. Et qui aborde.
Un nouveau billet de banque fait polémique à Madagascar depuis fin juillet. Il s'agit d'une coupure de 20 000 ariars, l'équivalent de 3 700 francs CFA. C'est le plus gros billet jamais mis en circulation sur la grande île. Une partie de la population est choquée dans ce pays où la majorité des gens gagnent moins du quart de cette somme par jour. Si certains malgaches sont soulagés de ne plus transporter des liasses de billets, d'autres trouvent le billet de 20 000 ariars difficile à utiliser et craignent une flambée des prix ou encore le blanchiment d'argent. En Côte d'Ivoire, une nouvelle taxe de 100 000 francs CFA fait sursauter les petits agriculteurs. Le syndicat national des producteurs de café et cacao l'a dénoncé, disant que cette taxe vient d'être instaurée sans leur consentement par le conseil du café cacao sous tutelle du ministère de l'Agriculture. 220 000 euros, c'est le montant investi par la Chine en Éthiopie pour son industrialisation accélérée. Une nouvelle usine construite en 9 mois à l'entrée du parc industriel d'Awassa au sud de la capitale est en stade d'essai de production. Bientôt, la main-d'œuvre transformera le fil importé de Chine en tissu, puis ce tissu prendra la forme de chemises made in Ethiopia et porteront les marques Calvin Klein ou Tommy Hilfiger pour être exportées vers l'Europe et les États-Unis.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Qui remportera le titre du joueur UEFA de la saison 2016-2017? La liste des prétendants a été révélée.
Oui, trois finalistes, à commencer par Gianluigi Buffon, le gardien et capitaine de la Juventus Turin. Buffon a réalisé le doublé Coupe Championnat d'Italie. Il a même atteint la finale de la Ligue des Champions, remportée 4-1 par le Real Madrid d'un certain Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais, qui a également décroché le championnat d'Espagne et la Supercoupe d'Europe, fait figure de grand favori pour se succéder à lui-même. Avec une troisième couronne de ce trophée individuel, Ronaldo devancerait son grand rival Lionel Messi, qui n'a gagné que la Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone.
On reparle de la suspension de Cristiano Ronaldo en Espagne.
Le Madrilène a été suspendu 5 matchs, vous vous en souvenez, suite à son expulsion controversée lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne remporté par le Real à Barcelone. Eh bien, hier, son entraîneur Zinedine Zidane a réagi, il s'est dit très contrarié. « Je peux me tromper, mais 5 matchs après ce qu'il s'est passé, c'est beaucoup », a asséné Zidane, disant espérer que le comité d'appel de la Fédération espagnole allège cette sanction.
Transfert, Sofiane Feghouli est arrivé en Turquie.
L'Algérien est le nouveau joueur de Galatasaray. Après Younes Belanda et Batefimbi Gomis, Galatasaray réussit un nouveau coup sur le marché des transferts. L'Algérien a signé un contrat de 5 ans. West Ham, où il évoluait depuis un an seulement, devrait percevoir entre 4 et 5 millions d'euros. d'indemnité de transfert.
Athlétisme, Managoi en confiance.
Oui, le Kenyan Elijah Managoi, récent champion du monde du 1500 mètres à Londres, se sent capable de réaliser le doublé en remportant sa première Ligue de Diamants sur la distance. L'athlète de 24 ans, spécialiste du demi-fond, est actuellement en tête du classement du 1500 mètres avec 30 points avant la dernière course de la saison sur la distance. Ce sera à Zurich le 24.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Pays sahélien autrefois épargné par le terrorisme, le Burkina Faso est depuis ces deux dernières années le théâtre d'attaques djihadistes meurtrières. La dernière a été perpétrée dimanche à Ouagadougou. Avec la montée et la fusion des groupes djihadistes opérant dans le Sahel, il n'y a pas que le Burkina qui est directement menacé. Pour en savoir davantage, Jacques Aristide s'est entretenu avec Babacar Niaye, spécialiste des conflits armés et du terrorisme en Afrique de l'Ouest.
Le Burkina commence à être continué du fait en termes d'attaques terroristes. Écoutez, moi, je pense que c'est à l'image des pays de la région. Hein. Vous savez, c'est difficile de combattre aujourd'hui le terrorisme parce qu'il faut des moyens, il faut des services de renseignement qui soient très performants, il faut aussi des forces de sécurité qui soient vraiment bien formées, outillées pour faire face à la menace. Donc, pour moi, c'est un ensemble de facteurs qui peuvent vraiment pouvoir enrayer cette menace terroriste. Donc, le Burkina, ce n'est pas un pays ciblé en tant que tel, c'est juste que, voilà, c'est à l'image des pays de la région. Ce sont les pays qui sont face à la menace terroriste.
Justement, hormis le Mali et le Burkina, quels sont les pays de la sous-région qui ne sont plus à l'abri du terrorisme et comment peuvent-ils lutter contre la menace?
Écoutez, c'est une menace globale. Aujourd'hui, je pense que si on doit faire une liste de pays qui doivent être épargnés par le terrorisme, pour moi, c'est vraiment ne pas comprendre ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des groupes armés qui sont dans le Sahel, qui sont dans la région et qui ont envie d'en découdre avec les pays et qui ont envie de perpétrer des attaques sur le sol de ces pays-là. Donc, à mon avis, aujourd'hui, aucun pays ne peut dire que je suis à l'abri de la menace terroriste. C'est une menace qui est globale et que chaque pays doit vraiment prendre cette menace au sérieux et essayer de mettre en place un dispositif de sécurité, de mettre en place des moyens et surtout de collaborer avec les autres pays de la région. Pour moi, aujourd'hui, il faut porter une réponse globale à cette crise. Nous voyons par exemple l'initiative du G5 Sahel.
Quels sont ces groupes qui représentent aujourd'hui une véritable menace pour la sous-région?
On a dans la région ce qu'on appelle ATMI, qui a toujours des dissidences en son sein. Nous avons Al-Mouradikoun avec Mokhtar Ben-Mokhtar et d'autres groupes djihadistes qui sont dans la région. Et donc, il essaie vraiment de savoir ce qui s'est passé au Burkina. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore entendu des revendications d'un groupe. Aujourd'hui, il faut voir la guerre contre le terrorisme comme une guerre asymétrique. Nous avons des États, des puissances qui sont dans la région, des pays qui sont là et qui font face à des groupes. Et donc, c'est très difficile pour ces pays-là de pouvoir vraiment combattre de manière efficiente par ces groupes-là. Pourquoi? Parce que c'est des groupuscules. Ceux qui ont perpétré l'attaque de Ouagadougou, d'après ce que j'ai lu, ils sont entre 2 et 4. Et voilà, il est vraiment difficile d'apporter une réponse efficiente face à cette question. Et donc, oui, beaucoup de groupuscules qui sont dans la région, qui sont là, qui essaient de perpétrer des menaces. Certains groupes plus jeunes, d'autres se renforcent, d'autres montent en puissance. Mais voilà, c'est le moment de prendre à disposition pour pouvoir apporter une réponse adéquate face à ces menaces.
Babacar Niaye, spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest, joint à Dakar. Babacar Niaye, qui sera l'invité de Jacques Aristide dans Washington Forum.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le point sur le dernier attentat terroriste Burkina Faso, mais aussi sur les nouvelles menaces djihadistes en Afrique. Pourquoi le Burkina est-il visé? Quels sont les autres pays désormais pris pour cible? Les États africains ont-ils les moyens de lutter contre les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Autre question au Burkina Faso, cette fois-ci concernant la jeunesse. Que désirent les jeunes? Quels sont leurs rêves et dans quelles conditions vivent-ils? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Zoumana Wonogo.
Les jeunes constituent la frange la plus importante de la population burkinabée. Cependant, cette jeunesse assure ne pas sentir les gouvernants. Shérif Dagano, étudiant en droit, explique.
On veut sentir en fait nos dirigeants. Depuis l'ex-régime jusqu'à maintenant, vraiment, il n'y a pas vraiment de... On sent rien en fait. On ne sent pas de mouvement. On ne sent pas que ça bouge. Au niveau de création d'emplois, innovation et tout ça, c'est RAS qu'on veut le dire.
RAS, où rien à signaler chez les jeunes, ne veut point dire tout va bien. Bien au contraire. Draman Bonkungu, il relate ici les conditions difficiles.
Moi j'ai des papiers d'entreprise, mais je n'ai pas un fonds de déroulement, je n'ai pas de soutien, rien. Je me demande comment fait. Moi, je pense qu'en ce moment, ceux qui n'ont rien, ils seront toujours rien. Bon, moi, je pense que la jeunesse burkinabé, l'État a dû nous oublier. Les jeunes ont des idées et qu'on n'a pas de soutien. Bon, moi, je pense que ces idées vont s'effondrer.
Si chez les jeunes hommes, c'est assez difficile, cela l'est encore plus chez les jeunes femmes. Suivons Marianne Compaoré.
Pour nous, les femmes, c'est difficile parce que tu ne peux pas dire pour chercher du boulot. Le patron te propose des trucs, des propositions indécentes. Certains sont obligés de céder parce qu'elles sont en manque de moyens. C'est difficile pour nous. Et de fois aussi, on est obligé de s'humilier pour subvenir aux besoins. Pour le boulot, là, c'est dur à trouver parce que tu peux finir tes études et chercher pendant 3 ans, 4 ans comme ça, chercher du travail et puis tu ne trouves pas. Tu es obligé de vendre des petits trucs pour pouvoir subvenir à tes besoins.
Face à ces difficultés, le sport et la musique sont des porte de sortie. Aristide Zundi relate son entrée dans la musique.
Moi, j'ai décidé de rentrer dans la musique pour pouvoir m'en sortir. Quand il n'y a pas les moyens, tu finis l'école, tu veux chercher à faire un boulot, tu n'arrives pas à obtenir le boulot que tu veux. Tu es obligé de rentrer dans un métier forcément, parce que ce métier, même si ça ne t'intéresse pas, tu es obligé de rentrer dans ce métier. Priez que Dieu te soutienne là-dedans, parce que réellement, ce n'est pas facile.
Alfred Sawadogo, initiateur du MROD, Mouvement de réflexion sur les opportunités de développement, voit comme solution l'implication des jeunes dans les sphères de décision, suivant sa démarche.
Au jour d'aujourd'hui, combien de ministres burkinabés ont moins de 35 ans? Combien de députés burkinabés ont moins de 35? Combien de DG ou de directeurs de services ont moins de 35 ans? Dans un pays où près de 70% de la population a moins de 35 ans, il est nécessaire, il est logique que les jeunes soient de plus en plus représentés dans les sphères de décision et de gouvernance. Emmanuel Macron devrait inspirer non seulement la jeunesse burkinabé, mais la jeunesse africaine tout.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso reconnaît que son pays traverse une crise économique. La dette publique de ce pays riche en pétrole représente 117% du PIB, le produit intérieur brut, selon le Fonds monétaire international, qui a affirmé récemment que le Congo lui avait caché une partie de sa dette. De Brazzaville, Nguela Ngoussou.
L'ambiance a été très festive et solennelle à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Plusieurs Congolais se sont rendus sur le lieu du défilé et se disent satisfaits.
On est vraiment contents de... J'ai découvert que les gens pour le défilé, j'ai vu que c'était vraiment fantastique pour nous. Donc, Sassou a bien fait, il a bien fait, donc je lui félicite.
Nous avons découvert de bonnes choses, nous avons vu aussi des gens qui vivent souvent dans des... Des provinces intérieures, nous sommes venus voir comment c'est la fête de l'indépendance.
Cette célébration se déroule cependant dans un contexte de crise économique très aiguë que le président Denis Sassou Nguesso a lui-même reconnu.
Les recettes budgétaires et les investissements publics sont en baisse continue. Presque tous les secteurs de l'économie nationale sont touchés par la récession. De toute évidence, lorsque... L'économie est malade, le social court le grave risque d'être à son tour contaminé.
Pour le mouvement citoyen ras-le-bol, cette célébration pompeuse a été du gâchis. Charlène Kinoani, le coordonnateur adjoint du ras-le-bol.
Ça devait permettre de privilégier d'autres situations. Par exemple, nous avons les fonctionnaires du CHU aujourd'hui qui n'ont pas de salaire. Nous avons les étudiants qui sont quasiment à 9 mois sans bourse. Nous pensons que c'était même... obligatoire, au vu de la situation économique actuelle, de sursoir cette fête d'indépendance. Parce qu'on ne fête pas lorsqu'on n'a pas l'argent.
L'analyste économique Alphonse Ndongo estime que le gouvernement devait privilégier les dépenses nécessaires pour éviter de s'engouffrer dans la crise.
La démarche des autorités pour le commun des mortels est un peu incompréhensible puisqu'on sait que le Congo traverse une situation financière très difficile. Le montant de la dette reste certes inconnu, mais on parle de plus de 120%, sinon 120% du produit intérieur brut.
Après cette manifestation marquée par plusieurs banquiers dans la ville, le Congo doit se préparer à passer en programme avec le Fonds monétaire international, une étape redoutée par les fins limiers de l'économie congolaise. Nguela Ngousou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
En Sierra Leone, trois jours de pluie torrentielle ont provoqué des inondations et un gigantesque glissement de terrain. Cette catastrophe naturelle a fait plus de 300 morts et quelques 3000 sans-abri à Freetown. D'autres villes africaines ont déjà connu le même phénomène. Pour parler des risques naturels auxquels les villes urbaines où les aires urbaines sont soumises en Afrique, Eric Manirakiza a joint à Djibouti Hassan Omar Boulalé, chercheur dans la gestion de risques et catastrophes naturelles.
Si on met en place la prévention avant toute catastrophe, et en place des outils et d'instruments qui permettent de prévenir des risques, donc c'est possible de minimiser les dégâts, que ce soit humains et matériels.
Il y a des ministères chargés de la planification.
Tout à fait, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique d'éradiquer et de prévenir ces fléaux qui sont assez importants et qui dit souvent au changement naturel et au changement climatique de nos jours? C'est quelque chose qui se met en place. Mais en Afrique, on a tendance à oublier ou souvent à ignorer ces fléaux-là.
Vous parlez de la responsabilité des autorités, mais il y a aussi la responsabilité des populations.
L'État est le garant de tout élément parce qu'elle est la souveraineté, elle a l'autorité sur la population. Donc, il fallait que l'État intervienne et avant la construction, même dans la quête des parcelles, elle devait intervenir à essayer de prescrire les zones qui sont à risque, des zones sensibles dont il ne fallait pas construire. Par exemple, dans des zones très sensibles pour l'inondation, par exemple.
Et qu'en est-il des constructions anarchiques?
Ça dépend de la planification de l'État. Si l'État toujours veille sur l'installation des habitants, surtout dans les milieux urbains, de construire et de planifier en avance la construction en dur, et essayer d'aider d'apporter des solutions qui peuvent entraîner ce qu'on appelle l'avenir durable ou qui peut apporter des changements qui sont vérifiables dans l'avenir. Donc, tout tourne autour de l'État.
On voit aussi des problèmes de canalisation.
Tous ces éléments-là, ça revient au même. C'est toujours l'État qui doit essayer de focaliser sur ces points-là, l'urbanisation, l'habitation. Donc, l'État doit apporter des solutions adéquates pour la population. Et même ce qui pose problème aujourd'hui en Afrique, c'est la recherche ou la quête de lieux d'habitation. Donc si l'État organise et planifie déjà pour la population, il y aura moins de dégâts.
Les agents de l'État attribuent des parcelles, les gens construisent tout en sachant qu'il y a des risques justement d'inondation.
La corruption fait partie des éléments destructeurs dans ce domaine-là et dans tous les domaines en Afrique. Mais il faut sensibiliser la population, dire que c'est des zones à risque, c'est inondable, c'est pas possible de construire dans ces domaines-là. Il faut y trouver d'autres zones et même mettre en place des cartes qui montrent des zones à risque à ne plus s'installer.
C'était le chercheur dans la gestion de risques et catastrophes naturelles, Hassan Omar Boulalé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la tuberculose, une maladie opportuniste fréquente chez les personnes séropositives.
En effet, selon l'OMS, la tuberculose est le premier facteur de mortalité chez les personnes porteuses du VIH-SIDA. En 2015, 35% des décès des séropositifs ont été dus à la tuberculose.
Pour en parler, nous recevrons comme invité le docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin généraliste. Il nous dira comment éviter la maladie et il nous parlera aussi des soins appropriés pour les malades.
Nous écouterons le témoignage l'âge d'un malade et nous nous rendrons dans un centre d'encadrement et de professionnalisation de jeunes tuberculeux en RDC.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.